Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est une émission un peu particulière que nous vous proposons aujourd'hui puisque notre invité est un pianiste de jazz dont les racines jamaïcaines ont imprimé une tonalité caraïbe à son swing américain. Nous avons le bonheur d'accueillir le célèbre Monty Alexander. Merci d'être avec nous.
It's a pleasure.
Vous étiez le 23 avril dernier à la Philharmonie de Paris pour donner un concert dans le cadre de l'exposition Jamaica, Jamaica. Est-ce que la culture jamaïcaine l'emporte sur votre musicalité de jazz?
I think it's a 50-50. Equal amount of inspiration.
Je dirais que c'est du 50-50. Je m'inspire autant du jazz que des musiques caribéennes. De toute façon, c'est la vie qui m'inspire. Je suis donc incapable de vous dire quel genre musical a le plus d'importance dans ma vie. Certes, je suis né en Jamaïque et je porte en moi le patrimoine hérité du continent africain. Mais je ne peux me dissocier de l'influence britannique liée à la colonisation. En d'autres mots, la musique fait partie de ma vie depuis que je suis né. Tout gamin, j'entendais à la radio les œuvres de nos voisins américains. J'ai donc grandi en écoutant tout type de musique. Je m'enthousiasmais autant pour le rhythm and blues que pour le calypso. Je ne faisais pas de distinction entre les styles musicaux. Seule mon humeur décidait de la musique que je voulais entendre à un moment précis de la journée.
Quel souvenir avez-vous de votre enfance à Kingston? Est-ce que c'était une jeunesse heureuse?
Yes, it was very. Partly because of music. This music passion came to me.
Oui, c'était une jeunesse heureuse, notamment grâce à la musique. Cette passion m'habite depuis toujours. La musique m'a rendu heureux. J'ai toujours conservé ce sourire qui invite mes proches et mes contemporains à sourire à leur tour. C'est un cadeau du ciel de pouvoir s'épanouir dans la musique. Évidemment, j'ai d'autres passions, comme le football que je pratiquais étant enfant, mais en rencontrant d'autres musiciens, plus particulièrement mes aînés, qui étaient des héros à mes yeux, j'ai compris que l'on pouvait jouer du jazz en Jamaïque.
Est-ce que votre premier groupe, Monty and the Cyclones, était déjà représentatif de votre identité musicale d'aujourd'hui?
Je ne sais pas quoi vous répondre à cela. C'est en tout cas ma première expérience de groupe alors que j'étais encore à l'école. J'avais demandé à certains de mes camarades percussionnistes et guitaristes de se joindre à moi pour tenter quelque chose. Je ne sais pas si nous étions de bons musiciens, mais nous avons au moins essayé de monter un orchestre. C'était davantage un acte social qu'un réel engagement artistique. J'avais déjà une bonne oreille et je savais reproduire les œuvres que je jugeais pertinentes lorsqu'elles étaient diffusées à la radio. Il s'agissait principalement d'artistes américains comme Fats Domino, Little Richard, Elvis Presley, dont j'adaptais les œuvres dans une tonalité beaucoup plus jamaïcaine. Nous ne cherchions pas à créer une musique sophistiquée. Nous n'étions que des jeunes gens qui cherchaient à s'exprimer. Puis, quand le ska est arrivé, la dimension citoyenne de cette musique m'a immédiatement conquis. Ce nouveau vocabulaire musical est né presque par hasard parce qu'il s'inspirait, au départ, du rhythm and blues américain. À cette époque, je n'avais que 14 ans. J'adorais cette musique américaine, mais jamais je n'aurais imaginé m'en inspirer à ce point. J'ai même redécouvert récemment un enregistrement de Lucille, de Little Richard, que j'avais totalement transformé en y insufflant une tonalité caribéenne italienne imprimée par la rondeur d'une basse électrique lourde et puissante. J'aurais pu me contenter de copier l'héritage américain, mais j'étais fier d'y apporter ma touche jamaïcaine personnelle.
De quel style musical jamaïcain vous sentez-vous le plus proche? Le mento, le ska, le rocksteady, le reggae, le dancehall?
It's all of it. All of it, because in fact, the thing with me,
tout cela à la fois. Je le répète, je ne donne pas de définition aux musiques. Pour moi, tous ces genres sonores ne reflètent que l'attitude et l'esprit jamaïcain. Cela dit, n'oublions jamais que lorsque Louis Armstrong a fait irruption dans ma vie, je devais avoir 9 ou 10 ans. Il s'était rendu en Jamaïque et je me suis mis dans la tête de l'imiter. Pour moi, tout cela n'était qu'un jeu. Mon père m'a même offert une trompette que j'ai très vite délaissée au profit du piano. Bref, Louis Armstrong était un roi à mes yeux et il faisait une musique, le jazz, dont je ne connaissais pas le nom à l'époque. Quelques années plus tard, j'ai découvert le film High Society, auquel il participait aux côtés de Frank Sinatra et Bing Crosby. Soudain, j'ai réalisé que son interprétation ressemblait beaucoup à la tonalité calypso de Harry Belafonte. J'ai compris ce jour-là que toutes les musiques sont interconnectées. Je regrette seulement que l'industrie du disque ait voulu étiqueter tous ces styles de musique.
J'écoutais récemment l'un de vos vieux enregistrements avec le guitariste Ernest Ranglin, intitulé Limbo, en 1974. Ça ressemble à du calypso de Trinidad. Comment expliquez-vous cela ?
Well, this is a very special time, this interview, because
votre interview tombe à point nommé, car beaucoup de gens ne comprennent pas la chose suivante. L'espace caribéen est très vaste. Deux îles peuvent être séparées par l'océan, mais partagent un patrimoine commun. En Jamaïque, il nous arrivait fréquemment d'écouter des artistes de Trinidad comme Mighty Sparrow ou Lord Kitchener. Il est donc tout à fait logique que cette humeur sonore ait influencé certaines racines musicales jamaïcaines comme le mento. À Trinidad, le steel drum est l'un des pivots essentiels des orchestres de rue. En Jamaïque, cet instrument est plus secondaire. Cependant, nous nous servons de l'empreinte rythmique de Trinidad pour nos propres compositions. Ce que les musiciens trinidadiens n'ont jamais importé chez nous, c'est le reggae. Ils n'ont jamais été capables d'imprimer ce groove qui nous est si cher, même si je reconnais qu'il y a des similitudes entre Trinidad et la Jamaïque. Quand vous écoutez Limbo, l'important n'est pas de définir l'origine musicale et géographique de ce titre, mais d'en comprendre l'intention. Je voulais retranscrire dans cette chanson les chants et les danses qui accompagnent le limbo. Le limbo est une danse ancestrale qui consiste à passer sous un bâton horizontal, placé de plus en plus près du sol sans jamais le toucher. C'est un moment festif des traditions jamaïcaines et Ernest Ranglin joue magistralement sur ce titre. Nous avons su restituer l'âme caribéenne dans cette œuvre.
Écoutons ce disque de 1974.
Ok, go ahead, play the thing.
Limbo, Ernest Franklin et Monty Alexander, notre invité dans l'épopée. Monty Alexander, vous avez quitté la Jamaïque en 1961, vous aviez à peine 16 ans. Pourquoi la domination britannique était trop oppressante?
No way. I was a teenager not caring much about such matters.
Pas du tout. Vous savez, je n'étais qu'un adolescent et je ne m'intéressais pas beaucoup à la politique à l'époque. J'avais conscience qu'une partie de la population venait d'Europe, et notamment d'Angleterre, mais je pensais que ces gens-là nous apportaient de bonnes choses pour notre vie quotidienne. J'ai progressivement réalisé que le système économique importé d'Europe était beaucoup plus oppressif qu'il n'y paraissait. D'une certaine manière, la colonisation a provoqué une réaction culturelle et musicale, le reggae, qui défiait les autorités en place. Ce n'était pas que de la musique, c'était une forme d'expression utile et nécessaire pour tous ceux qui tentaient de survivre dans une société inégalitaire. Je n'ai cependant pas quitté la Jamaïque pour fuir cette situation, mais pour saisir une opportunité américaine qui me tendait les bras. Ma mère avait compris que ma passion pour le piano méritait un enseignement plus académique que je pouvais trouver aux États-Unis, et en l'occurrence à Miami, en Floride, où nous nous sommes installés. À peine arrivé sur place, et comme je le faisais dans les bars de Kingston où l'on croisait plus de gangsters que de mélomanes, je me mettais au piano et j'espérais que l'on me remarque. Ce fut le cas. Je n'ai finalement jamais fréquenté d'école de musique, mais j'ai rencontré beaucoup de monde dans les clubs américains. Je passais aussi beaucoup de temps au cinéma. J'étais fasciné par la flamboyance des acteurs américains. Après avoir suscité l'attention de quelques musiciens à Miami, je me suis retrouvé à New York et j'ai commencé à jouer dans un club appelé le Gillies. C'est là que Frank Sinatra m'a proposé de l'accompagner sur scène et m'a recommandé à quelques-uns de ses amis. Je ne réalisais absolument pas ce qui m'arrivait. J'avais 17 ans et je faisais la fête tous les soirs avec les grands noms du jazz américain. J'étais en compagnie de Ray Brown, Dizzy Gillespie, et cette histoire se poursuit toujours aujourd'hui.
But the party was on because I was hanging out playing jazz with the greatest musicians in the world. All of them. Dizzy, you know. So it's still happening.
À la fin des années 60, le rocksteady était perçu comme une musique militante. Bien que vous ayez quitté la Jamaïque, est-ce que vous étiez un partisan de la rébellion?
En fait, je n'étais militant que lorsqu'il fallait se battre à l'école quand des camarades de classe me cherchaient des noises. En dehors de cela, en tant que musicien, j'ai toujours été partisan de la paix dans le monde. Mon militantisme s'est appelé à la paix à travers la musique. Peut-être aurais-je dû davantage me soucier des tribulations de mes contemporains en Jamaïque, mais en arrivant aux États-Unis au tout début des années 60, je me suis retrouvé plongé dans le bouillonnement social du mouvement des droits civiques, et cela m'a profondément marqué. Ma carrière de musicien a débuté juste avant l'assassinat de Martin Luther King. Tout le monde appelait au changement et envisageait un monde meilleur. Malheureusement, nous en sommes toujours au même point aujourd'hui.
Est-ce que ça a été un déracinement pour vous de quitter Kingston ?
I didn't feel the shock that much. I just felt the joy because I came to this place called America.
Je n'ai pas ressenti de choc culturel. J'étais d'abord heureux d'être là, aux États-Unis. Le rêve américain avait encore une signification à l'époque. Le monde du spectacle était en pleine ébullition et tellement attirant. Pour moi, l'Amérique était une promesse de changement radical dans ma vie. La Jamaïque est évidemment un paradis sur Terre, mais pour le gamin que j'étais alors, je m'y sentais vraiment à l'étroit.
Happy people and a way of life, but it was limited.
Une fois aux États-Unis, vous l'avez dit, vous avez joué avec les plus grands, Frank Sinatra, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, mais vous êtes toujours revenu aux racines jamaïcaines. Que vous ont apporté ces deux cultures, caribéenne et américaine?
Well, you know, it's an unfolding challenge because
c'est un défi constant, car lorsqu'on est comme moi un immigrant et que l'on chérit ses propres origines, on ne cesse d'injecter dans notre comportement, notre attitude, notre expression, l'écho de nos racines ancestrales. Je n'ai jamais cherché à imposer mon patrimoine, je me contentais d'imprimer une tonalité rythmique jamaïcaine en espérant que mes nouveaux amis américains l'apprécient, la comprennent et soient capables de la jouer. Ce fut souvent un sacré challenge. Il suffit de m'écouter parler pour comprendre que je ne suis pas américain. À un moment donné, j'avais même appris à imiter l'accent américain pour me fondre dans la communauté américaine. Quand on me demandait d'où je venais, au début, je répondais honnêtement que j'étais jamaïcain. Et la réaction de mon interlocuteur était toujours la même. C'est où ça? Voilà pourquoi je me cachais derrière un mauvais accent américain. Petit à petit, je me suis fait des amis sincères qui ont fini par m'accepter et reconnaître mon identité. Mais j'ai dû me faire l'idée que j'étais différent. Et le premier réflexe est de se fondre dans la masse sans pour autant oublier qui l'on est, ce qui ne m'est jamais arrivé puisque j'étais régulièrement en contact avec mes amis en Jamaïque. Et ma mère me préparait des petits plats traditionnels jamaïcains qui me rappelaient mon pays d'origine. J'avais l'impression d'être de retour à Kingston. Que voulez-vous ? Je me suis adapté.
En février dernier, vous participiez à un colloque avec le géant Randy Weston. De quoi avez-vous parlé ?
My goodness, I can't remember exactly, but Randy Weston, one of my favorite.
Je ne sais plus très bien, mais je peux vous dire que Randy Weston est l'un des plus grands pianistes d'aujourd'hui. C'est un jeune artiste de 90 ans qui est une vraie inspiration pour moi. Il passe son temps à rappeler aux jeunes Afro-Américains ce que fut l'histoire de leurs ancêtres. À travers la musique, il évoque l'héritage africain de ses contemporains. Nous sommes devenus de bons amis, nous jouons parfois ensemble. Je me souviens notamment d'une tournée européenne que nous avions réalisée ensemble il y a 25 ans. Lorsqu'il m'a invité en février dernier à l'université Medgar Evers, il voulait que je parle de la Jamaïque sur un ton aussi complice que celui que nous avons actuellement tous les deux. Nous avons joué un peu de piano ensemble, mais il insistait d'abord sur la fierté que devait retrouver la jeune génération africaine-américaine. Il voulait que les jeunes comprennent la notion d'intégrité. C'est l'une des valeurs qui s'exprime le mieux lorsque l'on voit un musicien, notamment un pianiste, devant son instrument. Ce jour-là, je ne jouais pas devant des étudiants, mais j'apportais ma part d'héritage à des jeunes qui animeront la société de demain. J'ai passé un très bon moment avec Randy Weston.
On sait que pour les Jamaïcains, l'Afrique est une terre sacrée. Est-ce que vous avez cherché à connaître, comme Randy Weston, vos racines ancestrales africaines ?
Je suis issu d'une famille métisse. Mon père avait des racines européennes et ma mère avait des origines africaines. Cela dit, personnellement, je n'ai jamais cherché à connaître précisément la source de mon existence. Je m'en tiens à ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais fait ce travail généalogique car les branches de l'arbre sont si nombreuses que je m'y perdrais moi-même et je ne saurais pas comment démêler tout cela. Très honnêtement, je me fiche de savoir où sont mes racines ancestrales. Je préfère m'intéresser à l'instant présent. Comme le disait Charlie Parker, « Now is the time ».
Charlie Parker, « Now is the time ».
C'est ainsi que je vois les choses. Certes, l'histoire est intéressante, mais je suis tellement occupé par ma vie d'aujourd'hui, j'essaye tellement de profiter de chaque instant que je ne me retourne pas sur le passé. Pour autant, je félicite tous ceux qui font cet effort. Actuellement, aux États-Unis, des publicités appellent les Américains à rechercher la trace de leurs origines, mais pour ma part, je préfère aller de l'avant. Le moment présent m'intéresse davantage. Je suis un être humain originaire de la planète Terre. Un point, c'est tout.
I'm human being from the planet Earth, me. Yeah.
Je vous posais cette question car lorsqu'on écoute Scamento sur le volume 2 de Harlem Kingston Express, on perçoit cette tonalité africaine hybride. Est-ce que vous êtes d'accord ?
I didn't think about it. I just played it, you know.
Très honnêtement, je n'y pensais même pas lorsque j'ai enregistré ce titre. Je me suis contenté de le jouer. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne décris pas ma musique avec des mots. Je ne connais même pas le nom des différents accords que j'utilise. Quand je joue, je pense davantage à des couleurs, à des émotions, à une humeur. Quand je dois exposer mes intentions à mes musiciens, je me contente de leur dire « Essayez de jouer dans le style reggae » ou « Tentez de reproduire le style high life ». Ou encore, j'aimerais que vous jouiez ceci comme Jean-Sébastien Bach ou comme Louis Armstrong. Je m'en tiens à ce genre de directive. Pour en revenir à votre question et au titre Scamento, la mélodie originale est en fait un hommage à toutes les sonorités musicales que j'entendais dans ma jeunesse et que j'appelais de manière très puérile le mento. Lorsque le producteur Norman Granz m'a proposé, pour son label Pablo, d'inviter le guitariste Ernest Stranglin en studio, nous avons intitulé l'album « Jamento ». Beaucoup de gens m'ont demandé quelle était la signification de ce titre. Je ne le savais pas moi-même. Puis, le ska est apparu et je me suis dit qu'il serait de bon ton d'imprimer ce rythme-là sur cette composition. J'adore interpréter ce titre.
Le mieux, c'est encore d'écouter ce titre, échappé de l'épopée des musiques noires.
Play the thing.
Scamento, Monty Alexander en 2014. Monty Alexander, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres projets à annoncer?
Well, other project I've been working on that I wasn't saying much about, but I'm now going to happily say I've completed.
L'un des projets que je viens de terminer et que je devrais présenter au public dans les trois mois qui viennent est un hommage au pianiste Thelonious Monk, dont j'ai détourné les œuvres dans une humeur jamaïcaine. Je vais faire danser Thelonious Monk comme Bob Marley le faisait jadis. J'ai donc adapté quelques-uns de ses classiques, j'y ai ajouté un groove particulier et je dois dire en toute humilité être assez satisfait du résultat. Ce sera un projet très différent des précédents. J'entends déjà les puristes me dire « Vous ne devriez pas toucher aux œuvres de Thelonious Monk. » Mais j'aime la transgression parfois.
Est-ce que vous avez déjà le titre de cet album? Est-ce que ça pourrait être un Ja Monk ou Ska Monk ou whatever?
That's good. I'll think about those two titles as possibilities.
Je vais réfléchir à ces deux suggestions. J'avais pensé à Monk Rastafari, mais j'hésite encore. Je peux en tout cas vous dire que j'ai découvert Thelonious Monk alors que je n'avais que 14 ans. J'étais dans un des studios légendaires de Kingston, le Studio One. Un trompettiste est venu vers moi et m'a dit
You might ever hear this guy Monk, man. The guy the Monk, different man. He might have a weird play and when he play him, not like nobody else, you know.
Tu connais ce type Monk? Il joue comme personne. Il semblait fasciné par Thelonious Monk. J'ai donc conservé à l'esprit ce bref échange et je me suis souvenu de la personnalité fantasque du pianiste Thelonious Monk. Je suis sûr qu'il a entendu beaucoup de musiciens issus des Caraïbes, car il vivait dans un quartier très cosmopolite où ses rythmes étaient très présents. Je suis convaincu que lorsqu'il composait un titre, il ressentait l'humeur jamaïcaine de manière diffuse dans son esprit. Mais pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à tenter cette expérience musicale autour des standards de Monk et j'espère pouvoir vous faire entendre tout ça très prochainement à la radio.
Eh bien, j'attends ça, nous attendons ça avec impatience. Merci beaucoup, Monty Alexander.
Joe Farmer, a delight and a pleasure talking with you again. Stay strong.
C'est sur cette annonce d'un futur album de Monty Alexander consacré à Thelonious Monk que nous allons nous quitter. Je vous rappelle que l'exposition Jamaïca, durant laquelle cette interview a été réalisée, se poursuit jusqu'au 13 août à la Philharmonie de Paris. Si vous êtes dans les parages, ne manquez pas cet événement culturel d'envergure. Quelques autres rendez-vous parisiens à noter. D'abord, la venue de l'ancien partenaire de James Brown et tromboniste émérite, le célèbre Fred Wesley, ce dimanche au Jazz Club Étoile et pour trois soirs, donc jusqu'au 2 mai, suivi les 4, 5 et 6 mai d'un autre tromboniste de grande valeur, le fantastique Big James, que nous rencontrerons pour l'occasion. Par ailleurs, je vous recommande ce dimanche de vous rendre sur le site de l'UNESCO qui retransmet en direct la 6e journée internationale du jazz ou Jazz Day depuis La Havane à Cuba avec notamment Herbie Hancock, Richard Bona, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés ou encore Marcus Miller. Et enfin, je vous annonce la sortie de l'album Reflet Danse du batteur guadeloupéen Sonny Troupé qui se produira le 10 mai prochain au Centre Culturel Barbara à Paris dans le 18e. La semaine prochaine, nous accueillerons le soulman Lee Fields que nous avions invité en mars dernier, mais la disparition de Chuck Berry avait un peu bousculé notre planning. Lee Fields nous présentera Special Night, son dernier album en date. Merci à Nathalie Laporte pour son indispensable conscience professionnelle et mes salutations distinguées à Vladimir Cagnolari, la voix française de Monty Alexander. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.